Nous avons évoqué certaines réalités fondatrices qui nous permettent d'avoir de vrais repères, de vrais fondements dans ce que Dieu veut être pour nous. Nous sommes appelés aussi à vivre notre vie dans ce monde et nous sommes en train de considérer ces exhortations qui nous sont données à tenir ferme. C'est notre thème de cet été, tenir ferme. Et je vous invite à lire un texte qui parle d'un autre aspect de la fermeté. Nous avons évoqué la fermeté et sa valeur en pensant à l'exemple de Job, à ce que signifie pour Dieu une attitude de fermeté. Nous avons parlé dimanche dernier des ressources de la fermeté, ce que nous avons en Jésus-Christ. Et nous sommes ici invités à tenir ferme, y compris dans les combats. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Éphésiens 6, verset 10 à 20. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints, priez aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle hardiment, comme je dois en parler. Jusqu'ici, notre lecture. Ainsi donc, il nous faut nous battre. Ainsi donc, nous voilà enrôlés en tant que chrétiens dans une bataille qui implique de notre part une fermeté à toute épreuve. Et nous qui attendons de notre foi qu'elle nous apporte l'harmonie, qu'elle nous apporte la sérénité, qu'elle nous apporte une vie plus douce. Et nous qui disons que Christ est notre paix, et nous qui chantons ces vertus de la foi qui nous réconcilient avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres. Et là, Paul nous dit, mais revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Tenez ferme, ne lâchez pas, mais tenez. Ne lâchez rien, mais battez-vous. 4 fois, il le répète. On n'aime pas trop ce genre de discours. L'histoire de l'humanité est entachée de trop de sang au nom d'idéologies guerrières, qu'elles soient politiques, religieuses, raciales, économiques. Tant de gâchis, de vies brisées, et tout cela pourquoi au bout du compte? C'est parfois terrible d'y penser. Le désastre de tous ces jeunes morts dans la Première Guerre mondiale pour gagner un mètre, c'est juste incroyable, inconcevable. Qu'est-ce qui mérite qu'on se batte pour l'obtenir? Qu'est-ce qui mérite qu'on se batte pour le faire triompher? À quel prix, avec quels moyens? Impossible d'éluder ces questions. Le combat. On a un peu de mal parfois. On n'aime pas trop ces discours combatifs. Pourtant, le combat possède indiscutablement certains titres de noblesse. On admire par exemple les battants, ceux qui en veulent, ceux qui s'engagent pour de bonnes causes, ceux qui tiennent bon lorsque la vie est dure, ceux qui donnent tout pour un maillot, pour une médaille. Mais ces battants, on les admire d'abord pour leur effort sur eux-mêmes. Les choses deviennent plus délicates lorsque l'on désigne un ennemi et que le battant devient un combattant. Alors à quoi sommes-nous appelés en tant que chrétiens ? Sommes-nous appelés à être des battants qui se battent contre eux-mêmes et contre les circonstances ? Ou à être des combattants qui désignent et affrontent un ennemi ? Disons tout de suite et d'abord qu'il ne faudrait pas trop durcir l'opposition entre d'un côté les gentils battants qui ne se battent contre qu'eux-mêmes et les méchants combattants qui ont des ennemis. Combattre un ennemi ne veut pas dire que l'on soit agressif ou violent. Les combattants du feu luttent contre les incendies parce que les incendies sont là et qu'il faut s'opposer à eux. De même, ceux qui combattent contre la délinquance, la misère. La différence entre un battant et un combattant peut être simplement une différence de contexte. Le combattant se bat dans un contexte d'hostilité, d'opposition, le battant dans un contexte de difficulté et d'effort. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme, nous dit l'apôtre Paul. Dans quel combat sommes-nous donc engagés ? Dans quel combat serions-nous peut-être même enrôlés ? Lorsque nous lisons ce texte avec l'armure du chrétien, le premier réflexe que nous avons est d'en faire une sorte d'application individuelle. Chacun a ses combats, chacun a ses luttes personnelles, et il nous faut être ferme dans nos combats et nos luttes personnelles. On pense alors aux difficultés de la vie. On pense aux tentations qu'il faut affronter. On pense à la recherche d'une vie sainte. Tout cela exige que nous nous battions pour y arriver. Mais tout cela, dans cette perspective, on le voit simplement au niveau personnel. C'est pour tenir ferme personnellement qu'il nous faut chacun nous revêtir de toutes les armes de Dieu dans les combats qui font la trame de notre vie. C'est un premier niveau de lecture que de voir les choses à ce niveau-là. Mais il est possible aussi d'adopter une vision un petit peu plus large en pensant à ce combat que l'on peut être amené à mener. Être chrétien, c'est aussi entrer dans le projet plus large de Dieu. Ce projet concerne bien sûr notre vie personnelle. Dieu nous veut solide, Dieu nous veut persévérant, Dieu nous veut vigilant face au mal, Dieu veut que nous menions une vie sainte, c'est tout à fait vrai au niveau personnel. Mais le projet de Dieu dépasse notre simple petite personne. Le projet de Dieu concerne aussi son œuvre dans le monde et son œuvre pour le monde. Dieu veut qu'un grand nombre de personnes soient sauvées. Dieu veut que son évangile porte des fruits partout. Dieu a le souci de la justice, de l'équité. Dieu veut que son règne vienne. Mais tout cela, ce projet large de Dieu, suscite une opposition forte, acharnée. Ce projet large de Dieu doit se frayer sa voie dans un contexte hostile. L'humanité préfère se donner ses propres modes de vie, et les forces hostiles au Seigneur trouvent là de vrais ressorts pour faire barrage à l'œuvre que Dieu veut faire. Et en tant que chrétiens, nous faisons partie de ce projet plus large de Dieu, et il nous revient aussi de prendre notre part à sa réalisation, d'en être solidaires, de nous y impliquer. Mais cela veut dire être impliqué dans un combat, parce que ce projet de Dieu suscite le rejet, suscite l'hostilité de la part des hommes, de la part de forces hostiles au Seigneur. Contre qui nous faut-il nous battre ? Quel combat mener ? Il nous faut battre, c'est certain, comme tout le monde, face aux difficultés de la vie. mais nous avons aussi à affronter différentes formes d'opposition à ce que Dieu veut. Ce combat, nous l'éprouvons parfois dans notre vie personnelle pour grandir dans la sainteté. Mais ce combat, on le découvre aussi plus largement lorsque l'on s'engage en faveur du bien, lorsque l'on cherche à mener dans ce monde une vie droite qui respecte les principes, les valeurs du royaume de Dieu. Il arrive que l'annonce de l'Évangile suscite plus particulièrement de l'opposition, rencontre de vraies résistances. Mais la force destructrice du mal, c'est aussi anéantir d'un acte ou d'une parole une somme d'efforts patiemment mis en œuvre simplement pour le bien. Les négociateurs pour la paix en savent quelque chose dans ce monde de conflits. Combien de fois il faut reprendre et reprendre l'ouvrage ? Il nous faut aussi nous battre par nos engagements, par nos actes, mais il y a également la dimension de la prière. Vous voyez que tout cela forme un tout qui est large, et il nous faut tenir notre place, prendre notre part, tenir ferme dans ces différents registres jusqu'à ce qu'advienne le règne de Dieu. Il me semble que c'est dans cette perspective large et globale que nous devons recevoir cette exhortation de notre texte. Paul parle bien sûr de notre vie personnelle, de nos combats pour mener une vie qui honore le Seigneur. Mais il ne se cantonne pas à notre expérience individuelle. Vous avez vu qu'il intègre aussi l'annonce de l'Évangile. Priez pour moi lorsque j'annonce l'Évangile. Priez pour tous les saints plus largement. Et il précise aussi cette dimension lorsqu'il parle de ses principautés, de ses pouvoirs, de ses dominations des esprits du mal dans les lieux célestes. Il emploie là aussi des mots volontairement larges. Toutes ces forces hostiles que l'on désigne avec ces mots principautés, pouvoirs, etc., ne sont pas réunies pour s'opposer simplement à un petit chrétien solitaire qui essaie de vivre sa vie devant Dieu. Mais toutes ces forces hostiles sont unies et actives globalement pour s'opposer au royaume de Dieu, pour s'opposer à toute manifestation de ce que Dieu veut, pour s'opposer à Dieu et à son action dans le monde et pour le monde, pour contrecarrer son projet à lui. Tout ce que Dieu aime, tout ce que Dieu veut faire dans ce monde et pour ce monde, tout cela rencontre une opposition. Une opposition large, déterminée, multiforme. Et c'est pourquoi entrer dans l'œuvre que Dieu fait, entrer dans la volonté de Dieu, nous place automatiquement sur un terrain où il y a du combat, où il faut tenir, où il faudra persévérer, se battre, résister, comme des pompiers face à un incendie attisé par des feux tournants et relancé par l'habile pyromane. C'est comme cela qu'il nous faut envisager le bien, parce que c'est le contexte dans lequel le projet de Dieu avance dans ce monde. Je vous cite quelques mots du théologien John Stott dans cette même perspective. Voilà ce qu'il écrit. Le plan de Dieu est-il de créer une société nouvelle? Les puissances hostiles feront tout pour la détruire. Dieu a-t-il, par Jésus, brisé les murs qui divisent les êtres humains de diverses races et de diverses cultures? Le diable et ses acolytes vont faire tous leurs efforts pour reconstruire ces murs. Dieu veut-il que son peuple réconcilié et racheté vive en harmonie et dans la pureté? Les puissances de l'enfer vont semer parmi eux toutes sortes de semences de discorde et de péché. Jusqu'ici, cette citation qui dit bien cette opposition par rapport à ce que Dieu veut. Lorsque Jésus a parlé du royaume de Dieu, il a bien souligné cette réalité. Là où Dieu sème du bon grain, un ennemi vient par derrière pour semer de l'ivraie. C'est comme ça que ça se passe. Tout cela va pousser ensemble et il faut que le bon grain tienne au milieu de l'ivraie. Il faut qu'il y trouve sa place, il faut qu'il se développe malgré cet environnement hostile. Pourquoi donc parler de combat spirituel, de combat de la foi? Pas parce que la foi chrétienne serait agressive, ou parce qu'elle serait violente, ou parce qu'elle voudrait s'imposer par la force, pas du tout. C'est tout le contraire des valeurs incarnées par Jésus. Mais il y a combat parce que le mal est là. Parce qu'il est là, actif, rampant, multiforme, intelligent, séducteur, persévérant, bien organisé, opposé à tout ce que Dieu veut, opposé à tout ce que Dieu fait. À cause de ce contexte, à cause de cette réalité, il faudra se battre pour le bien. Il faudra se battre pour ce que Dieu veut. Il faudra se battre pour ce que Dieu aime. Il faudra se battre pour que ce que Dieu sème trouve une place au soleil. Il faudra se battre pour l'entretenir, pour le préserver des parasites, de l'étouffement, de l'insignifiance, des sourires suffisants. Il faudra se battre et vouloir que ça tienne. Il faudra se battre et lui accorder une valeur réelle, la valeur réelle qui est la sienne, parce que cela vient de Dieu, parce que c'est une semence de son royaume. Il faudra se battre et garder confiance et attendre avec persévérance le jour où le règne de Dieu se manifestera totalement par l'intervention souveraine du Seigneur Jésus dans toute sa puissance, tout son triomphe, toute sa beauté, toute sa justice pour anéantir définitivement le mal et créer un monde enfin totalement libre pour le bien. Ça, c'est notre espérance. Mais en attendant, il faudra se battre. Il faudra se battre. C'est la réalité. Voilà, me semble-t-il, le contexte dans lequel on parle de combat spirituel. Voilà la raison pour laquelle il nous faut parler de combat. Pas d'idéologie guerrière, bien sûr, mais une réalité à laquelle il nous faut faire face, absolument. Alors, que signifie pour nous, dans ce contexte, l'invitation à tenir ferme ? Comment décliner cette invitation « tenez ferme » ? L'image qui est employée est l'image d'un homme debout, bien campé, bien à sa place. Essayons de voir quelques facettes de ce qu'elle peut signifier. Une première idée, me semble-t-il, qui est suggérée par l'image en disant « tenez ferme », est que nous ne devons pas être déstabilisés ou être cassés parce qu'il faut nous battre, justement. Ne vous écroulez pas, mais restez debout. Certains rêvent qu'à partir du moment où ils deviennent chrétiens, tout ira bien. La vie chrétienne, c'est le bonheur, c'est la paix. S'il y a de l'opposition, le Seigneur combattra pour nous, nous assurera de victoires toutes faites, comme de larges avenues devant nous. Il est le Seigneur, le Dieu des victoires. Si nous pensons uniquement comme cela, le choc de la réalité risque de nous déstabiliser. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des obstacles, c'est qu'il y a des oppositions, c'est qu'il y a des vents contraires, c'est qu'il y a des bâtons dans les roues lorsque l'on veut entrer dans ce que Dieu veut. Restez debout, nous dit l'apôtre. Ne perdez pas pied, malgré cette réalité qui est là. Ne rêvez pas des choses qui ne sont pas. Dans la même ligne, l'apôtre Pierre écrit « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. » Ne soyez pas surpris que ce soit pas évident, comme si c'était étrange. 1 Pierre 4, verset 12. Et il rappelle l'opposition subie par le Seigneur Jésus lui-même. Il nous faut nous armer de cette pensée que nous ne serons pas portés par le public si nous voulons marcher selon Dieu. Nous ne serons pas portés par le public si nous voulons marcher selon Dieu. Aux Jeux olympiques de Rio, là, c'est ce qu'ont dû faire les handballeurs français dans leur demi-finale contre le Brésil. Ils se sont préparés au fait qu'ils allaient jouer dans une arène qui n'allait pas les applaudir à chaque bon coup. Ils se sont préparés au fait qu'il y aurait des sifflets. Ils se sont préparés au fait qu'ils ne seraient ni encouragés ni applaudis, même s'ils marquaient des buts géniaux. Ne soyez pas surpris de ces réalités-là. Renaud Lavillenie, à l'inverse, s'est laissé déstabiliser par les sifflets au saut à la perche. Il pensait que c'était du devoir d'un public olympique d'être fair-play, de porter les grands champions. Et il s'est énervé de ne pas être porté par le public. Tenez ferme, dit l'apôtre. Armez votre pensée de l'idée qu'il faut avoir de la consistance, qu'il faut se battre comme une équipe qui joue à l'extérieur et non à domicile. Tenir bon, donc, armer cette pensée de la nécessité et de l'exigence. Mais tenir bon, c'est aussi ne pas être effrayé. Une personne déjà effrayée est peut-être debout, mais elle ne tient pas, elle n'est pas ferme. Elle est déjà à moitié en train de fuir ou de céder. Tenez, nous dit l'apôtre, tenez bon, sans vous laisser effrayer, ni par la difficulté, ni par le fait qu'il faudra donner de soi, ni par l'opposition que parfois nous pourrons rencontrer. Ne pas être effrayé, tenir bon. Alors cette question de la peur n'est pas si facile que cela à considérer. On peut redouter certaines situations, on peut redouter certaines réalités, on peut redouter de devoir souffrir, on peut redouter la menace d'une maladie grave qui peut être mortelle éventuellement. C'est des choses qui, quand elles nous arrivent, on peut les redouter. Lorsqu'elles sont devant nous, on peut les redouter. On peut redouter de gravir une haute montagne. On peut redouter d'affronter le rejet ou la désapprobation des autres. D'ailleurs, devant un vrai obstacle, il vaut mieux le redouter que le banaliser. Les sportifs appellent ça respecter l'adversaire. Mais redouter donc, c'est ne pas minimiser ce qu'il faut affronter. Mais il y a une différence entre redouter et être effrayé. Celui qui redoute quelque chose perçoit bien sûr l'exigence de ce qui est devant lui, mais en même temps, il garde sa capacité de se mobiliser et il reste déterminé à se mobiliser face à ce qu'il reconnaît comme étant exigeant. Celui qui est effrayé, lui, a déjà cédé dans son cœur, s'est déjà laissé submerger, écraser. Jésus a redouté la croix, mais il ne s'est pas laissé effrayer. Il a prié intensément pour garder la capacité d'affronter ce qui était si redoutable. En ce qui concerne nos combats, notre allié pour faire face à ce qui est redoutable, justement, et que nous devons reconnaître comme tel, notre allié pour faire face à ce qui est redoutable, c'est la foi. C'est la foi. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, dit l'apôtre Pierre encore, résistez-lui avec une foi ferme, en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, verset 8. Et Jacques ajoute dans sa lettre un complément important, « Résistez au diable, dit-il, et il fuira loin de vous. » Autrement dit, c'est vrai qu'il ne faut pas minimiser la réalité de ce qu'on peut avoir à affronter, mais il ne faut pas maximiser non plus les choses. Lorsque l'on oppose une foi ferme qui s'attend au Seigneur Jésus, qui se réclame de lui, le diable ne tient pas. Il doit battre en retraite. Cela n'empêchera pas peut-être d'essayer de revenir, mais la foi éteint les traits enflammés du malin, nous dit l'apôtre Paul dans l'image du chrétien avec son armure. La foi est ce bouclier sur lequel ces flammes s'abîment et ne peuvent pas atteindre leur but. Alors c'est vrai que c'est un combat, on le vit face à certaines tentations, il faut résister, dire non. C'est parfois dur dans la tentation parce que la sollicitation ne vient pas que de l'extérieur, elle vient aussi de l'intérieur. Il y a nos désirs qui s'allient à la tentation extérieure. Mais une attitude ferme aura le dessus. Et c'est aussi la foi renouvelée, approfondie, qui permet d'endiguer certaines craintes qui pourraient nous submerger autrement. Les personnes qui sont vraiment dans des situations très lourdes, structurellement parlant, ont besoin de cette foi, de rester ferme dans la foi pour qu'ils ne soient pas comme écrasés par les vagues de tout ce qui leur pèse et qui pourrait les menacer. La même foi permet d'endiguer certaines craintes. Cette foi aussi nous permet d'avancer même si nous savons qu'il faudra donner de soi. Ce qui nous animera, c'est la confiance que nous pouvons avoir en notre Seigneur Jésus. Le monde entier est au pouvoir du malin, nous dit l'apôtre Jean dans sa première épître, chapitre 5, verset 19. Mais, dit-il aussi, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Et il précise même que c'est lui, le Seigneur Jésus, qui nous garde de telle sorte que le malin ne nous touche pas. 1 Jean 5, verset 18. Avoir confiance dans le Seigneur. Oui, notre monde est un monde où il y a d'hostilité au projet de Dieu, mais le Seigneur est là. Le Seigneur qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il nous garde. Nous pouvons avoir confiance en la valeur décisive de la mort, de la résurrection de Jésus. Nous pouvons avoir confiance en sa capacité de nous garder, de nous secourir, de nous protéger, de nous renouveler intérieurement par son Esprit qui est là, présent avec nous à chaque minute de notre vie. Tenez donc ferme à cause de tout cela. Tenez ferme, ne soyez pas effrayés, même s'il y a des choses redoutables auxquelles parfois il faut faire face. Tenir ferme, ne pas être déstabilisé, ne pas se laisser écraser, ne pas se laisser effrayer par ce qu'il faut affronter. Mais tenir ferme, c'est aussi dépasser l'indécision. Et c'est avoir un cœur entier dans notre foi. Être ferme, c'est aussi être entier dans notre foi. Certains sont toujours un peu tiraillés, toujours un peu coupés en deux dans leur foi, un peu coupés dans l'indécision. On croit en Jésus, en sa mort, en sa résurrection, en sa souveraineté, en son retour. Mais quand on regarde à ce qu'il faut affronter ou changer, ce que l'on croit ne nous anime plus, ne fait pas de différence. On est dans l'entre-deux. On ne fait pas la synthèse. On pense comme quelqu'un qui croit et en fait on agit comme si la foi n'avait pas d'incidence. Dans l'entre-deux. D'autres sont tiraillés dans les demi-mesures. On veut bien vivre selon la parole de Dieu, mais on est toujours en train de chercher des échappatoires à ce qu'elle nous dit. On adhère à la foi, mais on se demande toujours si l'herbe ne serait quand même pas un peu plus verte ailleurs. Jacques appelle ça être inconstant, irrésolu dans toutes ses voies. Difficile de tenir ferme si on est comme ça dans l'entre-deux permanent. Imaginez un soldat qui ne saurait pas vraiment à quel camp il appartient, à quel camp il donne sa loyauté, il ne pourra rien faire. Jamais il ne tiendra. Jamais il ne sera capable d'opposer quelque chose de solide lorsqu'il le faudra. Nous avons besoin d'être entiers dans notre adhésion au Seigneur, d'être entiers dans cette adhésion. L'Éternel, dit le livre des Chroniques, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 1 Chronique 16, verset 9. Être entier dans notre obéissance, être entier dans notre loyauté, être entier dans ce choix que nous avons fait du Seigneur, être entré aussi dans notre confiance en Jésus, dans notre confiance en ce qu'il réalisera lui. L'apôtre Pierre nous dit encore, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. 1 Pierre 1, verset 13. Être entier dans notre espérance, dans notre attente, dans notre confiance dans ce que Jésus va nous apporter. Nous avons besoin d'être entiers aussi dans notre confiance en la parole de Dieu. Si nous faisons ce qu'elle nous demande, nous devons avoir confiance que c'est bien, que c'est bon, que ça vaut la peine. Impossible de tenir ferme sans assumer nos choix, sans valoriser notre appartenance. Un sportif qui appartient à une équipe doit être fier de son maillot. Doit considérer que c'est un honneur de le porter s'il veut donner quoi que ce soit, s'il veut affronter vraiment ce qu'il doit affronter. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons être fiers de notre maillot. C'est un honneur pour nous, pour nous aussi que d'appartenir au Seigneur Jésus. C'est une fierté, c'est un privilège. Et pour tenir ferme, pour être entier et solide dans cette conviction, dans l'espérance qui s'attache à notre appel, nous devons vraiment cultiver cette joie, ce privilège d'appartenir au Seigneur, d'être engagé dans ce qu'il fait, de prendre notre part à ses plans. C'est un privilège que de nous lever pour l'Évangile. C'est un privilège que de nous lever, que d'être debout pour ce que Dieu demande de nous. La cause de Dieu mérite qu'on se tienne debout pour elle. L'amour de Dieu manifesté en Jésus mérite qu'on se tienne debout pour lui. Les valeurs de l'Évangile méritent qu'on se tienne debout pour elles. L'espérance qui s'attache à l'Évangile mérite qu'on se tienne debout pour elle aussi. C'est ce qui doit nous animer pour tenir ferme. Appartenir au Seigneur, c'est un privilège, c'est une fierté, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui vaut la peine. Et c'est pourquoi nous allons vouloir tenir ferme, rester debout pour ça. Cette valeur de l'Évangile, nous la découvrons au travers de l'engagement du Christ mort et ressuscité pour nous. Et je crois qu'il est important de dire ici que ce n'est pas une valeur triomphaliste qui impose sa suprématie et qui pulvérise ses adversaires. C'est bien plutôt une valeur d'engagement. Elle se donne, elle assume, elle prend sur elle, par amour. Elle se met au service, elle accepte de ne pas briller. Elle veut le bien avant tout. Son triomphe, c'est l'amour et non la manifestation de puissance. Son triomphe, c'est la force de l'engagement qui s'est donné à l'image de Jésus, dont la résurrection couronne le don de sa vie. D'abord le don, ensuite la victoire. Les valeurs pour lesquelles nous marchons, pour lesquelles nous voulons tenir ferme, sont des valeurs d'engagement, sont des valeurs de don à l'image de l'engagement et du don de Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous amène à la dernière pensée qui consiste à dire « Oui, il nous faut tenir bon, mais qui est notre chef? Qui est notre grand capitaine? Qui est notre inspirateur? Celui qui nous animera? C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Il n'est autre que le Dieu Fils unique, par qui et pour qui tout a été créé. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. C'est lui qui déjà a triomphé de la mort, a acquis le pardon pour tous ceux qui le demandent avec foi, a dépouillé les puissances de leur pouvoir de condamnation. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Il fera toute chose nouvelle par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. C'est lui à qui nous devons regarder. C'est lui le pionnier de notre salut. C'est lui qui a ouvert la voie, et ce qu'il a ouvert, personne ne peut le refermer. Et il a promis d'être là, avec nous, près de nous, pour nous, chaque jour de notre vie, jusqu'à la fin des temps. C'est à lui qu'il nous faudra, que nous pouvons regarder pour tenir ferme. C'est en lui que nous pouvons trouver nos forces, nos motivations, quelle que soit l'âpreté de nos engagements ou l'immensité de nos besoins. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, nous disait l'apôtre Paul. Et c'est son premier mot dans ce passage qui parle de combat. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine. Avant de nous encourager à tenir ferme, il nous dit, vous avez des ressources, fortifiez-vous en lui. Notre Seigneur Jésus est la source de toute fermeté et il en est l'inspirateur, la motivation et l'aboutissement. Mais il en est aussi le modèle. Et je rappelle que sa fermeté a été une fermeté d'engagement, de don de soi, dans l'amour, au cœur de la réalité humaine dont il s'est pleinement solidarisé. Il n'y a pas d'autre chemin. Assurons-nous de suivre cette voie et de la suivre avec lui, soutenu par lui. Il sera là. Il ne fera pas défaut. Il est le premier et le dernier et le vivant. Tenons donc ferme. Amen.